VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 10 août 2017. Kenya, l'opposition exige que Raila Odinga soit déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. En Centrafrique, plus de 20 morts dans des affrontements à Bema mercredi. 300 migrants africains jetés à la mer en 24 heures au large du Yémen, des dizaines de morts et portés disparus. Le ton monte entre Washington et Pyongyang qui présente un plan pour tirer 4 missiles vers l'île de Guam. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Au Kenya, l'opposition exige que son candidat Raila Odinga soit déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires de la commission électorale créditent le président sortant, Uhuru Kenyatta, d'une très large avance. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
Le numéro 3 de l'opposition, Musalia Mudavadi, exige que Raila Odinga soit déclaré président élu. Il dit se fonder sur des résultats figurant sur la base de données de la commission électorale qui donnerait à M. Odinga un peu plus de 8 millions de voix contre 7,75 millions pour M. Kenyatta. Cependant, il a appelé ses partisans à rester calmes à ce stade. Cette annonce contredit les résultats provisoires qui donnent 54,24% des suffrages au président sortant contre près de 45% à M. Odinga. La commission électorale dit attendre de recevoir d'ici vendredi midi les résultats complets des 290 circonscriptions. La mission d'observation de l'Union européenne a appelé à rester calme et pacifique. La Fondation Carter a exprimé sa confiance dans l'intégrité du système électoral, qualifié de détaillé et de transparent. Le Commonwealth a estimé que tout désaccord devrait être résolu par des voies légales. Des violences sporadiques dans plusieurs fiefs de l'opposition ont fait au moins 4 morts.
En Centrafrique, plus de 20 personnes ont perdu la vie mercredi dans des affrontements à Bema, dans le sud-est du pays. La localité est par ailleurs vidée d'une partie de ses habitants. Notre correspondant Freeman Sipila.
Les combats ont opposé une bande armée appelée groupe d'autodéfense à une faction ex-Séléka. Mercredi dans la matinée, des hommes armés attaquent la position des ex-Séléka et parviennent à leur reprendre le contrôle de la ville. Le bilan de ces heures, qui ont duré plusieurs heures, n'est pas encore officiellement connu. Mais selon des sources locales contactées par VOA Afrique, une vingtaine de personnes auraient trouvé la mort et de nombreux autres blessés. Il est difficile pour le moment de dire avec exactitude ce qui se passe dans cette localité de la préfecture du Mbomou. Craignant la reprise des hostilités, la quasi-totalité des habitants ont trouvé refuge en brousse ou encore dans les villages voisins. La MINUSCA, la mission de l'ONU pour le maintien de la paix, assure avoir pris des dispositions pour multiplier ses patrouilles dans la région. Les 3 août dernier, 6 volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine ainsi qu'une trentaine d'autres personnes ont été tués dans des affrontements similaires à Gambo, une autre localité du Mbomou. À Bangui, les autorités observent un mutisme total. Freeman Sipila, Bangui. VOA Afrique.
En RDC, un incendie a ravagé une grande partie d'un camp de 10 000 déplacés qui avaient fui les combats entre Bantous et Pygmées. Le sinistre a eu lieu hier dans la province de Tanganyika, dans le sud-est du pays. Selon Yvon Edoumou, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU en RDC, plus de 75% du camp est réduit en cendres. Au Cameroun, 5 personnes présentées comme des indépendantistes de la majorité anglophone ont été arrêtées début août. Solange Niamoulisa nous en dit plus.
Le porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, a déclaré que le commando arrêté les 2 et 3 août dans la région anglophone du Nord-Ouest voulait perpétrer des attaques contre des forces de défense et de sécurité, des responsables militaires et des autorités administratives. L'un des hommes arrêtés, Alfred Ngia Dassi, a été présenté comme le chef du Liberation Movement of Southern Cameroon. Plusieurs effets militaires ont été découverts chez lui lors de la perquisition. Selon le gouvernement, ces personnes font partie du mouvement de libération du Sud Cameroun, le bras armé de l'Ambazoni, nom de la République indépendantiste qu'ils veulent créer. Depuis novembre 2016, une partie de la minorité anglophone proteste contre sa marginalisation. Une frange aspire au fédéralisme, une autre demande l'amélioration des conditions de vie et des anglophones de la diaspora réclament la partition du pays. Plusieurs leaders anglophones sont écroués et font l'objet d'un procès pour terrorisme. Une nouvelle audience est prévue le 31 août.
En Côte d'Ivoire, une grève des agents de sécurité et d'entretien qui réclament 7 mois d'arriérés de salaire entravait ce jeudi le fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Bouaké. Les arriérés de salaire concernent 123 agents. Côte d'Ivoire, toujours, des partisans de Guillaume Soro ont annoncé la naissance d'un mouvement, l'Amicale des Forces Nouvelles. Les Forces Nouvelles sont l'ancienne rébellion menée par Guillaume Soro, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de ce nouveau mouvement, Félicien Sekongo, a récusé toute ambition de transformer l'AFN en parti politique, affirmant que sa création n'était pas liée à la présidentielle de 2020. L'otage sud-africain libéré fin juillet après 6 ans aux mains d'Al-Qaïda au Mali a dit avoir été bien traité par ses ravisseurs, surtout après s'être converti à l'islam, même s'il a eu peur à 3 reprises pour sa vie, dit-il. Stephen McGowan s'exprimait ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse à Johannesburg. Le Suédois Johan Gustafsson, libéré en juin, qui tenait également une conférence de presse mais à Stockholm, a dénoncé quant à lui le versement de rançons qui peuvent être utilisées dans la machinerie de guerre des djihadistes selon ses termes. Le vice-ministre sud-africain de l'éducation, Mududzi Manana, accusé de s'en être violemment pris à 2 femmes à Johannesburg, a été inculpé aujourd'hui pour agression avant d'être libéré sous caution. Sa prochaine comparution devant la justice a été fixée au 13 septembre. Une femme l'a accusé cette semaine de l'avoir, elle et sa cousine, roué de coups de pied, de coups de poing à la sortie d'une boîte de nuit dimanche matin. Le vice-ministre n'a pas nié les faits et a présenté ses excuses. La police zambienne a libéré ce jeudi l'opposant Savior Chisimba, arrêté jeudi dernier sans engager de poursuite contre lui, a indiqué son parti. Monsieur Chisimba avait été interpellé après une intervention télévisée. Il avait critiqué la façon dont le président Edgar Lungu gouverne la Zambie, s'attirant les foudres des supporters du chef de l'État. La Zambie a instauré mi-juillet l'état d'urgence pour 3 mois à la suite d'une série d'incendies criminels attribués à l'opposition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
300 migrants africains ont été jetés à la mer en 24 heures par des passeurs au large du Yémen. L'Organisation internationale pour les migrations a dénombré aujourd'hui au moins 5 morts et une cinquantaine sont portés disparus. Le point avec Ekia Badou.
Ils venaient de Somalie et d'Éthiopie dans l'espoir d'atteindre les pays du Golfe. Ce rêve a été fauché au Yémen. En 2 jours, au moins 300 migrants ont été jetés en mer et beaucoup sont morts noyés au large de la province de Chabwa, dans le sud du Yémen. Selon les survivants, certains d'entre eux ont payé jusqu'à 1 000 $, puis les passeurs les ont forcés à abandonner le bateau. Toujours selon leurs témoignages, une fois abandonnés dans l'eau, les trafiquants ont repris le chemin de la Somalie. L'OIM affirme avoir découvert 29 corps dans des tombes creusées à la hâte sur la plage. Plus de 30 000 des candidats à l'immigration ont moins de 18 ans. Depuis le début de l'année, l'OIM estime à 55 000 le nombre de migrants, dont un tiers sont des femmes, arrivés au Yémen en provenance de la Corne de l'Afrique.
L'Union européenne a allongé la liste des personnes et entités visées dans le cadre de ses sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. Au moment où l'escalade verbale s'intensifie entre Washington et Pyongyang, après le tir réussi d'un missile balistique intercontinental nord-coréen capable d'atteindre le continent américain, les Nations Unies ont adopté le 5 août les mesures les plus sévères à ce jour envers Pyongyang. Les membres de l'Union européenne ont annoncé ajouter 9 individus et 4 entités à leur liste noire, dont la Banque d'État Foreign Trade Bank. Cette décision porte le nombre total de personnes visées à 103 et les entités à 57. Voilà pour le journal. À présent, les sports avec Nicolas Pineau, ou plutôt l'économie.
Publiée par le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, indique que l'Afrique comptera près de 4,5 milliards d'habitants en 2100, soit 40% de l'humanité. Actuellement, le continent abrite 1,3 milliard de personnes, soit 17% de la population mondiale. Selon les prévisions, en 2100, il y aura 11,2 milliards d'individus sur Terre, contre 7,5 milliards aujourd'hui. Le rapport souligne que le Nigeria devrait passer de 191 millions d'habitants à plus de 410 millions d'habitants en 2030, se classant en troisième position des pays les plus peuplés au monde devant les États-Unis. Au Burkina Faso, les salaires des fonctionnaires seront bientôt versés uniquement par virement bancaire. Le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé que la mesure sera mise en place dès octobre 2017 dans le but de sécuriser les paiements effectués par l'État. Ce nouveau système vient remplacer les paiements au numéraire ou billettage en place depuis 2015. L'agence de notation Fitch Ratings vient de confirmer la note de défaut émetteur à long terme de la BAD, Banque africaine de développement, en la maintenant au AAA avec perspective stable. La décision de Fitch s'explique en majeure partie par le soutien des actionnaires de la Banque panafricaine. Mais l'agence s'inquiète de l'endettement croissant de la BAD qui pourrait devenir un problème à long terme. À l'origine des inquiétudes sur la solidité de l'institution financière, la croissance des prêts octroyés par la banque sur les deux dernières années.
C'était la Minute Éco qui vous a été présentée par Dilédico.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par les mondiaux d'athlétisme à Londres.
Déception pour Kabange Mupopo qui finit avant-dernière de la finale du 400 mètres. La Zambienne termine loin de la gagnante, l'Américaine Phyllis Francis, en 49 secondes 92. Une autre Américaine termine sur le podium, Alison Felix, troisième. Elle égale le record de Merlin Auté de 14 médailles obtenues dans des mondiaux d'athlétisme. On va suivre ce jeudi la finale du 200 mètres. Hier, Isaac Makwala du Botswana qui s'est qualifié avec un temps de 20 secondes et 20 centièmes. Également présent, le Sud-Africain Van Niekerk qui a déçu puisqu'il a obtenu seulement le dernier temps des qualifications. L'Ivoirien Fabrice Kofiwa lui a été éliminé. Au classement des médailles, les Américains toujours en tête avec 15 médailles, dont 4 en or. Derrière, pas de changement, le Kenya deuxième, 3 médailles d'or. L'Afrique du Sud désormais troisième avec 2 médailles d'or.
Dembélé va au clash avec Dortmund.
Et oui, l'attaquant Ousmane Dembélé, pressenti au FC Barcelone, a séché l'entraînement à Dortmund ce jeudi, poussant le club allemand à considérer son départ comme peu probable. Le club a annoncé ensuite dans un communiqué lui infliger, en raison de son absence, une suspension jusqu'à la fin du week-end. Le Borussia Dortmund assure que Dembélé est toujours dans la ville de Dortmund, contrairement à ce que disent certains médias, l'annonçant en route pour Barcelone.
Et on reparle de la controverse autour de la CAN 2019 au Cameroun.
Un des membres du comité de préparation de cette CAN 2019 qui prend la parole ce soir sur VOA Afrique, Joseph-Antoine Bell, ancienne gloire du football camerounais, qui affirme que son pays sera prêt pour 2019. Il met aussi en garde la Confédération africaine de football contre de possibles poursuites judiciaires en cas de retrait de l'organisation au Cameroun. On l'écoute.
Je pense que ce serait une grosse bêtise parce que ce serait une grosse secousse. Monsieur Hamad a été élu pour faire bouger les choses, mais il n'a pas été élu pour casser la CAF. Et donc, vous imaginez bien, le monde d'aujourd'hui est juridique. Honnêtement, je ne vois pas qui serait s'engager dans un dossier dont personne ne veut et qui ne serait pas à l'honneur du football africain.
Joseph-Antoine Bell sur VOA Afrique.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Au Kenya, la commission électorale ne pourra pas proclamer le vainqueur de la présidentielle avant demain à midi. 117 circonscriptions ont transmis leurs résultats sur les 290 du pays. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, est crédité gagnant, mais l'opposition exige que Raila Odinga soit déclaré vainqueur. Eric Manirakiza a joint à Nairobi l'ancien premier ministre du Sénégal, membre de la mission d'observation du centre Carter, Aminata Touré.
Tout le monde convient que les élections se sont passées dans le calme, en tout cas le 8 août. Au niveau du décompte à la fermeture des bureaux de vote également, cela s'est fait en présence des représentants des candidats et des partis qui ont signé sur le procès-verbal. Et ce procès-verbal a été envoyé au centre de recensement des votes. Évidemment, on ne peut pas tirer de conclusion définitive tant que le résultat final n'est pas déclaré par la commission électorale indépendante du Kenya, qui est au centre de l'organisation de ces élections. Nous avons tous entendu le principal challenger du président Uhuru, Raila Odinga, qui a rencontré d'ailleurs le chef de mission pour dire que le système électronique avait été attaqué et que les résultats sont falsifiés. Et les résultats définitifs ne sont pas encore annoncés.
Justement, il manque encore les résultats de 173 circonscriptions. Et Raila Odinga, il affirme maintenant qu'il a plus de suffrages que le président sortant Uhuru Kenyatta. Et il dit qu'il détient ces informations d'une source confidentielle au sein même de la commission. Qu'est-ce qui peut apaiser la surenchère?
Le parti NASA du candidat Raila Odinga détient les procès-verbaux des 41 000 bureaux de vote dans le pays. Donc il suffit tout simplement de les montrer, ce sont des preuves intangibles, et de faire l'addition publiquement et de les comparer aux résultats donnés par la commission électorale indépendante. Qui est la seule à devoir procéder au comptage officiel en présence des représentants des candidats et la seule habilité à déclarer les résultats, celles que l'ont accepté les différents candidats. Parce que quand vous êtes également dans une compétition, on ne peut pas changer les règles en cours de jeu, ce ne sont pas les candidats qui annoncent les résultats, mais si le candidat Raila Odinga a les preuves, et il devrait les avoir, puisqu'il a les fonds, les procès-verbaux de ses 41 000 bureaux de vote, ben, ce serait bien que ce soit publié et que voilà, il adresse ces preuves-là à la commission électorale indépendante, ou alors à la justice kényane qui est très active lorsqu'il s'agit de régler le contentieux politique ou le contentieux électoral.
Le président de la commission électorale, il a dit que sa vie est en danger. D'où viennent les menaces?
Tous les membres de la commission nationale électorale, ils ont fait un travail fantastique. Donc le gouvernement kényan a la responsabilité d'assurer la protection de l'ensemble des membres de la commission électorale, y compris son président.
Aminata Touré de la mission d'observation électorale du centre Carter était jointe à Nairobi. Le président tchadien Idriss Déby Itno a reçu ce jeudi des groupes de l'opposition, dont le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Ce mouvement politique avait dénoncé 26 ans de pouvoir sans partage et sans vision qui, selon le FONAC, aboutit à un niveau de pourrissement sans précédent au Tchad, selon ses termes. Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena Mahamat Ahmad Alabo, coordonnateur du FONAC.
Pendant l'audience, M. Idriss Déby a évoqué la préparation du forum pour la réforme des institutions. Il a demandé au FONAC d'y participer. Au FONAC, on pense que le Tchad traverse en ce moment une crise économique, financière, sociale et autres très grave, gravissime même, dirais-je. Et la priorité des Tchadiens n'est pas la réforme des institutions, mais la résolution de ces problèmes excessivement graves. Et donc, nous avons invité le président d'organiser plutôt un dialogue inclusif qui diagnostiquera les vrais maux du Tchad et il va en même temps chercher et trouver les vrais remèdes.
Quelle est la différence entre le forum que se propose d'organiser le gouvernement et le dialogue inclusif auquel vous appelez?
Bon, quand on parle dialogue inclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. Toutes les questions et tous les problèmes que connaît notre pays peuvent être évoqués, discutés. Et donc, quand vous dites tous les problèmes, il y a aujourd'hui les problèmes de la mal-gouvernance, particulièrement comment les ressources pétrolières ont été dilapidées, comment, par exemple, les régies financières sont occupées essentiellement par les membres de la famille présidentielle et tout cet argent-là s'envole, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Si vous regardez le problème de la liberté, de la démocratie, aujourd'hui les partis politiques n'ont pas le droit d'organiser des meetings ni des marches. Aujourd'hui, l'ANS est montée en puissance, elle embastille les leaders de la société civile, les leaders politiques.
Et l'ANS qui est l'Agence nationale de sécurité.
L'Agence nationale de sécurité qui a été créée, comme il vous souviendra, après la conférence nationale souveraine et dont la mission principale était de défendre les intérêts du Tchad sur le plan extérieur. Donc elle a été transformée, sa mission changée, elle est devenue une police politique au service du président de Vic.
L'ex-maire de Mondou, Lauke Médard, est emprisonné depuis le 13 juillet sans avoir été présenté à un magistrat. Est-ce que son cas a été évoqué?
Non, son cas n'a pas été évoqué. On a parlé de l'organisation du dialogue inclusif. On n'a pas eu le temps de discuter ou d'aborder d'autres questions. Mais pour nous, c'est un problème assez important, les violations gravissimes des droits de l'homme. Et donc, il est aujourd'hui, il semble que son dossier est complètement vide, il n'y a rien du tout là-dedans. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut présenter au juge.
Mamat Ahmad Alabo, coordonnateur du FONA, qui était joint à N'Djamena au Tchad.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La 16e conférence AGOA a pris fin ce jeudi à Lomé. Parmi les grandes annonces, on peut citer l'octroi du visa textile au Togo, le maintien de la loi jusqu'en 2025 et la validation de la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation du forum en 2019. Les réflexions ont porté aussi sur la densification des exportations sous AGOA avant cette date. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Les délégués des 38 pays africains éligibles à la loi AGOA ont fait le déplacement de Lomé avec la crainte que la nouvelle administration américaine ne décide la fin de la loi sur la croissance et les opportunités de développement économique en Afrique avant l'échéance de 2025. Une crainte dissipée par le représentant des États-Unis pour le commerce extérieur, Robert Lighthizer.
Les États-Unis s'engagent pour l'Afrique. Nous percevons un grand potentiel pour faire croître et approfondir nos relations commerciales dans le but d'établir un véritable partenariat pour le futur. Ensemble, nous pourrons créer un meilleur environnement des affaires et un chemin vers une relation commerciale plus pérenne à l'avenir.
Le ministre ivoirien du commerce, Souleymane Diarra Soubin.
L'ambassadeur Mr. Robert Lasbeck a affirmé que l'administrateur Trump prend conscience de l'importance des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne et continuera de travailler avec ses partenaires africains, ce qui permet aux États-Unis d'avoir de nouveaux débouchés, d'avoir également de nouveaux marchés.
En vigueur depuis 17 ans, les Africains n'ont pas su profiter de façon optimale de la loi AGOA. Certains pays comme le Togo viennent d'élaborer leur stratégie pour augmenter les exportations sous AGOA. Bernadette Legezim-Balouki, ministre togolais du commerce.
Nous avons fait des fiches pour identifier les produits susceptibles d'être exportés vers les États-Unis. Il y a des fruits, il y a des céréales, il y a les vêtements, bien sûr. Ce qui reste à faire, c'est de faire une cartographie du Togo pour qu'on puisse identifier dans chaque région les produits potentiellement exportables vers les États-Unis.
Dans le couloir du forum, l'après 2025 a été au cœur des échanges. Même si rien n'est encore décidé, le porte-parole francophone du département d'État, Brian Norbert.
Après 2025, on imagine peut-être quelques accords de free trade, ça veut dire les FTA, entre les États-Unis, que ça pourrait être bilatéral, on ne sait pas, multilatéral, entre le marché américain et ceux en Afrique.
Pour les 38 pays africains, un autre chantier est ouvert, celui qui pourra aboutir à l'élaboration d'une stratégie régionale AGOA afin de booster les exportations africaines sur le marché américain. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur le forum de l'AGOA qui se tient cette semaine à Lomé. L'AGOA, c'est cette loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Quelle importance revêt-elle dans les relations commerciales américano-africaines? Qui en tire vraiment profit? Pourquoi fait-elle toujours l'objet de critiques? Des changements sont-ils prévus sous la nouvelle administration américaine? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Burundi, sept jeunes soucieux de sortir de la misère ont créé une coopérative pour la culture du poisson. Ce business florissant dans la région connaît un développement régulier et génère de bons revenus. D'autres jeunes chômeurs commencent ainsi à suivre cette initiative en se lançant à leur tour dans la pisciculture. Notre correspondant Christophe Nkurunziza les a rencontrés.
À une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Bujumbura, des jeunes et vieux se disputent pour avoir la chance d'acheter un bon poisson. Des étangs ont été aménagés par une équipe de sept jeunes chômeurs sur la colline Kizina de la commune de Mbanda, en province de Bubanza, depuis plus de 3 ans. Dans ces étangs, ces jeunes ont créé une coopérative appelée Kopi Mukopo pour faire la culture de poissons. Cette pisciculture, au départ, était composée de 5 étangs. Aujourd'hui, l'association en possède 50. Ndaïra Guidje est le président de cette association de jeunes qui s'agrandit au jour le jour. Il nous donne les sauts de poisson prisés par la population.
Il y a plusieurs sortes de poissons dans ces étangs, des tilapia nélotiques ou ngege, un kirundi ou makoke. D'autres sont appelés kambale et d'autres encore njombo en swahili kirundi. Nous avons commencé avec 5 étangs aujourd'hui, nous en avons 50. Avant, on récoltait 200 kilos par an, mais nous avons aujourd'hui plus de 6 tonnes annuellement. Et le bénéfice se chiffre à plus de 6 millions de francs burundais que l'on partage entre les membres de notre coopérative. Mais le capital continue d'augmenter grâce à ces étangs.
Cette coopérative Kopi Mukopo gagne chaque année au moins 36 millions de francs burundais. Mais comment cette idée a-t-elle mûri au départ, Syriac Ndaïra Guidje?
Quand on a terminé nos études, on n'a pas trouvé de travail et parmi nous, il y a ceux qui ont étudié. On avait de la force physique, on s'est réunis et nous avons créé notre coopérative. Il y a des fonctionnaires qui commencent à venir nous rejoindre. Nous avons constaté que la production des poissons dans le lac Tanganyika diminuait terriblement et que la population d'ici, chez nous, aimait le poisson. Nous avons alors démarré notre projet. Nous vendons 1 kilo de poisson à 5 000 francs, alors que le poisson Nagala du lac Tanganyika coûte 28 000. La population ici est vraiment contente de cette coopérative car elle reçoit le poisson à bas prix.
Ce matin-là, sur cette colline, la population était en extase devant les étangs. Tout le monde voulait acheter du poisson pour aller faire la fête à la maison avec la pâte de manioc. Cette femme, avec un autre homme, témoigne.
Le prix du poisson du lac Tanganyika est vraiment cher. Ici, le poisson est délicieux et coûte moins cher. Les enfants m'attendent impatiemment car ils vont manger aussitôt que j'arrive à la maison.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot, à la console Audrius Regis, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée en compagnie de Henri Francisque pour l'actualité du jour.